Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la conférence Nexity Résultats semestriels 2022. Je m'appelle Benoît et je serai votre coordinateur pour l'événement d'aujourd'hui. Veuillez noter que cette conférence est enregistrée et que pendant la durée de celle-ci, vous serez uniquement en mode écoute. Vous aurez bien sûr l'occasion de poser des questions à la fin de cette conférence. Pour ce faire, veuillez appuyer sur étoile 1 de votre clavier pour enregistrer votre question. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez appuyer sur étoile 0 et vous serez connecté à un opérateur. Je confie maintenant la parole à Madame Véronique Bédague, directrice générale, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Merci.
Eh bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. Donc, autour de la table, au fond, les mêmes personnes que la dernière fois pour ceux qui ont assisté au webcast du T1. Donc, j'ai autour de moi Jean-Claude Bastien, directeur général délégué de Nexity, Hélène Romano, vice-présidente du pôle résidentiel, Nadia Ben Salem, qui est directrice générale adjointe en charge des finances, et Éric Ladéchère, directeur des finances. Et évidemment, vous vous en doutez, toutes nos équipes de communication financière. Donc peut-être pour introduire au fond cette séquence de webcast, je pense qu'on ne le fait pas toujours, mais évidemment ça s'impose cette fois, il faut parler économie, faut parler contexte macroéconomique. Alors ce contexte macroéconomique, moi j'ai envie de le définir de deux façons. D'une part, et on va en dire un mot rapidement, au fond, l'économie et le monde que l'on a aujourd'hui n'est pas celui que nous avions même lors de notre dernier webcast. J'y reviendrai dans une seconde. Et puis, évidemment, vous le savez, on est dans un moment où l'incertitude est extrêmement forte. Et je pense qu'en termes économiques, c'est au fond un moment où il y a peu de moments dans les dernières années où cette incertitude a été aussi forte. Alors, si on regarde un tout petit peu les chiffres, les prévisions de PIB et d'inflation. Là, on a pris les prévisions faites par l'OCDE d'abord en fin d'année dernière, au mois de mars, pardon, et puis au mois de juin. Et ce qui est intéressant de constater, donc, le mois de juin, c'est la ligne rouge. Les prévisions du mois de mars, c'est la ligne grise. Ce qu'on voit tout de suite, évidemment, et qui frappe, c'est que les prévisions de croissance ont été carrément divisées par deux depuis le mois de mars, pendant que les prévisions d'inflation, elles, ont été multipliées par deux pour 2022, on est quasiment à multiplier par trois en 2023. Donc vraiment, le monde a changé, en particulier sur l'inflation, et vous le savez, dans nos métiers, l'inflation est au fond peut-être plus que l'inflation, son imprévisibilité, parce que ce qu'on a vécu au T3, c'est surtout cette imprévisibilité au fond de l'inflation, a des effets et a rendu en particulier très complexe et lent. La signature de nos marchés de travaux a décalé nos mises en chantier et a ralenti notre chiffre d'affaires. Moi, j'ai envie de dire, au fond, ces sujets-là, on a pris cette imprévisibilité, c'est aux augmentations de coûts de production à bras-le-corps. Hélène y reviendra tout à l'heure. On a fait le choix de la prudence, c'est-à-dire qu'au fond, on a revu toutes nos opérations et on a lancé que les opérations pour lesquelles on était sûr du coût de construction. Une des particularités de Nexity, vous vous en souvenez, c'est qu'au fond, on travaille très peu avec les grands majors du BTP. On travaille avec eux quand on a besoin de dérisquer. Mais nos chantiers, l'essentiel de nos chantiers, ce sont des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises en région, en Île-de-France. Et au mois d'avril-mai, ces entreprises faisaient face à des coûts, à des augmentations enfin, réelles ou supposées ou attendues au fond, d'intrants qui étaient très élevés. Il y a même eu des déclarations du président de la Fédération française du bâtiment qui disait désormais, il ne faut plus de signer de contrat fixe, au fond. Et donc, on a pris ce temps pour retravailler avec, au fond, tous nos partenaires. On a, quand c'était possible aussi, travaillé les prix, c'est-à-dire qu'on a renégocié, lorsque ça s'y prêtait, les prix de nos ventes en bloc, hein, pour nous permettre, au fond, de prendre en compte une partie de cette augmentation. Et nous avons retravaillé nos prix aux particuliers et nous les avons augmentés lorsque c'était possible. Donc, tout cela, évidemment, a pris du temps au second trimestre. Et je crois que l'on peut affirmer que pendant ce trimestre, la crise ukrainienne et ses conséquences ont affecté l'appareil de production du logement neuf. Mais nous, on espère désormais que ce coup de chaud un peu spéculatif dans certains cas est derrière nous. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans les appels d'offres que l'on appelle, on retrouve au fond des réponses plus normales, donc qui nous permettent de penser qu'effectivement, on est rentré un petit peu, le fleuve est rentré un peu dans son lit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mises en chantier au premier semestre, surtout le marché stagne. Voilà, c'est comme l'année dernière. Nous, on a fait un peu mieux, on a fait plus 4%. Et puis surtout, l'élément important, vous le savez, c'est que les ventes de logements neufs ont chuté de 20% au premier trimestre 2022 à cause d'un certain nombre de ces éléments qui étaient au fond beaucoup d'incertitudes. Du côté de la demande et donc des déménages, évidemment, la succession de chocs épidémiques, géopolitiques et économiques a fortement érodé leur confiance qui a atteint au mois de juin un point bas. L'inflation, évidemment, réduit le pouvoir d'achat des plus modestes au moment même où le crédit immobilier remonte. Vous avez les chiffres en tête, 1,38 en mai, 1,49 en juin pour un emprunt à 20 ans. Et la production de crédit immobilier a baissé, baisse d'ailleurs depuis à peu près le mois de mai, sous l'effet évidemment des mesures macro-prudentielles qui s'imposent désormais aux banques depuis le 1er janvier. Et puis par le jeu que vous avez désormais, je pense, bien en tête du taux de l'usure, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles de journaux sur ces sujets-là. Ce que ça fait sur notre marché aujourd'hui, nous, c'est que ça écarte de plus en plus les personnes, au fond, les plus défavorisées, et puis les jeunes. C'est d'abord un effet d'éviction. Bon, dans ce contexte un peu paradoxal Pardon, ce qui est intéressant aussi de noter, parce que nous, du coup, on regarde ça aussi du côté de nos activités de syndic, et je pense que ce que je vais vous dire dit beaucoup du besoin de logement dans ce pays, c'est que l'insuffisance chronique, désormais, elle est là depuis plusieurs années. On a un choc qui ralentit la mise en commercialisation au premier semestre. On a cette insuffisance, au fond, de logements neufs ou rénovés. Crée des tensions que l'on voit déjà à l'œuvre dans le marché de l'ancien. Et c'est intéressant de voir à quel point ces tensions se propagent très rapidement dans le secteur du logement. Comme il devient de plus en plus difficile d'acheter son logement, les locataires sont de moins en moins susceptibles de quitter leur logement pour se porter acquéreur. Et donc, il y a un taux de rotation dans le stock existant de logements qui se réduit. L'offre d'appartements est en train de chuter. On a moins 13% d'offres de location sur un an, et quand vous êtes sur les T1, qui sont très recherchés, on est à peu près à moins 20%. Aujourd'hui, les agents immobiliers et nous, on voit que, au fond, quand on a un bien à mettre en location, grosso modo, on a 30% de demandes en plus par rapport à l'année dernière. Donc, il y a une sorte de paradoxe de besoin au fond de location qui s'exprime sur le marché, et puis de moins de moyens de nos concitoyens, particulièrement des plus défavorisés et des jeunes, pour acheter un bien à un bien au fond. Et je ne vais pas spoiler l'Investor Day, nous y reviendrons fin septembre, mais évidemment, nous avons travaillé sur des moyens au fond de faire un pont entre ces deux marchés, mais nous en reparlerons plus complètement fin septembre. Chiffres clés, donc vous les avez sans doute déjà regardés. Au fond, ils confirment les chiffres du T1 avec un marché du logement neuf global proche de moins 20%. Nos réservations sont à moins 9% au volume. L'immobilier entreprise est comme prévu à un point bas et les services sont en forte progression. Ce qui est important de regarder, c'est que le pipeline, lui, reste à peu près constant. On a évidemment des opérations auxquelles nous avons renoncé, mais dans le même temps, parce qu'on est dans un moment de consolidation, en fait, on nous a apporté pas mal d'affaires avec des permis purgés, des petits promoteurs qui n'arrivaient pas à les terminer et que nous avons donc embarqués. Donc, au total, on a un pipeline et un potentiel qui n'ont pas bougé. Performance financière, le chiffre d'affaires du premier trimestre est globalement en retrait de 5% par rapport à l'année dernière. Alors, évidemment, l'année dernière était une année où nous avions vendu, vous vous en souvenez, en immobilier d'entreprise, notre futur siège à Saint-Ouen. Et hors cet effet-là, le CA augmente de 1%. La marge, elle, est de 80 points plus bas que l'année dernière. On est à 5,6 sous l'effet, à ce stade, de la prudence que nous avons inclus dans nos bilans. Dans le détail, le chiffre d'affaires dans l'immobilier résidentiel est en léger repli et les services, mais Jean-Claude y reviendra longuement, eux sont absolument florissants. Alors, du coup, en quelques mots, vous l'avez compris, notre conviction, c'est que, évidemment, on a une baisse conjoncturelle du marché, qu'on a des ralentissements de mise en commercialisation, Et au fond, on les a voulus parce qu'on veut maîtriser nos prix, on veut maîtriser nos marges, on veut maîtriser nos opérations. Vous savez que le métier de la promotion est un métier de gestion du risque et c'est vraiment ce que nous avons fait au premier, au second trimestre. On a des investisseurs individuels qui sont affectés partiellement, ça dépend un peu de leur niveau de revenu, par le durcissement des conditions de financement. Du coup, dans ce contexte, la guidance que nous prenons, on reste à 14% de part de marché, mais on fait l'hypothèse d'un marché qui ne serait plus à 150 000 lots, parce que ce n'est pas ce que dit le premier semestre, mais plutôt à 130 000. Si évidemment le marché était plus élevé, nous prendrions notre part de marché. Le chiffre d'affaires est à 4,6 milliards de francs, d'euros, pardon. Il serait constant par rapport à l'année dernière. C'est un petit coup de spin, là. Et puis, la marge opérationnelle courante serait autour de 8%. Alors, peut-être un tout petit mot de contexte. Moi, ce qui me frappe beaucoup au-delà des chiffres du semestre, c'est au fond cette poussée et ce besoin de logement dans ce pays. On peut en discuter. Mais et on le voit, parce que dès qu'on arrête de moins construire dans le logement neuf, on bloque le marché de la location. Nous, on estime que le besoin structurel, au fond, de logements dans ce pays, c'est entre 500 000 et 600 000 logements par an. Et pour nous, c'est du neuf ou du rénové, parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans la vraie vie de Nexity, en fait, on est dans un continuum de logements complètement neufs et d'autres rénovés. On en construit à peu près 380 000 par an. Et ce besoin structurel, il est lié à la démographie. Quelle que soit la façon dont on regarde les choses, on attend 3 millions de ménages supplémentaires d'ici 2040, à la fois effet démographique et effet taille de ménages qui se réduisent. On a du mal logement. Donc la Fondation de l'Abbé Pierre dit 4 millions de mal logés. Dans la commission Rebsamen où j'étais, on était plutôt entre 2,5 et 3. C'est énorme. On a 2 millions de demandeurs de logements sociaux. Il n'y a pas de chiffres récents sur les demandeurs de logements sociaux, mais je suis convaincue que compte tenu de ce qu'on vient de se dire, le nombre de demandeurs augmente. Et puis, nous, on dit depuis le début qu'on va avoir un sujet sur la loi climat et résilience. Vous connaissez la position de Nexity. Nous, on soutient tout ce qui contribue à les villes durables. On pense qu'il faut aller vite. Mais sur la loi climat et résilience, parce qu'on est syndic, on voyait bien qu'au fond, un certain nombre, d'abord, comment dirais-je, les délais sont très courts. Hein, vous vous souvenez, les logements classés F et G, on ne peut plus augmenter les loyers à partir de juillet de cette année. Et à partir de 2025, on ne peut plus louer si on n'a pas fait les travaux. Et nous, on voit bien qu'au fond, il y a beaucoup de personnes qui ont un logement à rénover et qui n'auront jamais les moyens de mettre les moyens dans cette rénovation. Ça risque, on le dit depuis le début, de sortir un certain nombre, non négligeable, de logements du marché locatif. Donc là, j'ai vu un article dans les journaux, c'était le premier qui est apparu vraiment. On commence à se dire, bah oui, ces sujets-là, il faut les traiter parce qu'on va sortir des logements existants du marché. Donc au fond, ce qui arrive aujourd'hui, c'est, je pense, une plus grande fluidité entre le neuf et l'ancien, entre le rénové et le neuf. Et au fond, j'ai envie de dire, chez Nexity, on est parfaitement prêt à faire ce qu'il y a à faire, puisque nous sommes, vous en souvenez, à la fois promoteurs, on fait du neuf, on fait du rénové, aussi on fait de la rénovation énergétique via nos syndics. Deuxième sujet, donc voilà, donc cette pression, elle va monter. Vous connaissez un peu, malheureusement, comment fonctionne le gouvernement, et j'ai du mal à le dire, puisqu'il m'est arrivé d'être de l'autre côté, mais le marché est en train de se contraindre et il faudra qu'à un moment donné, le gouvernement fasse ce qu'il a à faire. Alors, c'est un moment intéressant aussi, vous savez, tous ces moments de crise sont aussi des moments d'opportunité. Ma conviction que je partage avec vous ce soir, c'est qu'on est vraiment dans un moment de consolidation du marché. Donc, on vient de prendre une participation dans le groupe Angelotti, parfaitement conforme à notre stratégie, la stratégie qu'on avait définie l'année dernière. Nous, on souhaite faire du M&A en promotion dans les zones où l'activité immobilière est très forte, et c'est vraiment le cas de l'Occitanie, et où nos parts de marché sont plus faibles, et c'est vraiment le cas de l'Occitanie. Angelotti, c'est une boîte qui fait de très beaux produits, très bien implantée en Occitanie, avec un pipeline d'à peu près 6 ans de chiffre d'affaires. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir fait cette acquisition. Au fond, ça crée le vrai pied du sud de Nexity. Vous savez qu'on est une boîte très nordiste historiquement. Je pense que ça ramène aussi une partie de la culture du sud dans l'entreprise, et c'est très intéressant. Mais la consolidation, dans mon esprit, ça n'est pas qu'une affaire de M&A. On est dans un moment où le métier de la promotion devient plus complexe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les marchés de travaux et l'approvisionnement. Je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait parce que, d'abord, on est quand même très équipé. On a une direction de la construction qui, au moment mars-avril-mai, était très au clair sur les marchés de l'acier. C'est un peu bête, très au clair sur les marchés du bois. On avait des marchés cadres qu'on avait conclus avant et qui nous permettaient, au fond, quand on avait un problème d'appro, d'aller d'un marché à un autre. Ça, c'est vraiment un effet taille. On a également, deuxième effet de taille qui me frappe beaucoup, c'est la compréhension de l'ARE 2020. Nous, l'ARE 2020, on la comprend bien et on l'a travaillé avant, et du coup, on a travaillé les modes constructifs qui vont avec cette RE 2020. Il y a beaucoup de petits promoteurs qui sont plus en difficulté sur ces sujets-là. On a également, et ça a été très utile, et ça le sera, je pense, encore plus au second semestre, une force de commercialisation qui est extrêmement élevée. On a des vendeurs dans les filiales. On a une équipe qui s'appelle Patrimoine, qui s'occupe vraiment des prescripteurs. Et puis, on a e-sélection. Et puis, on utilise aussi, je dois le dire, nos activités de service, puisque nous vendons aussi directement, au fond, nos logements neufs à certains de nos locataires qui nous semblent, au fond, prêts à accéder à la propriété. On a aussi clairement des besoins croissants de fonds propres. Et donc, il y a autour, au fond, d'entreprises comme nous, un vrai réseau de petits promoteurs qui aujourd'hui viennent nous voir, beaucoup de demandes de copromotion, beaucoup de permis où ils nous demandent de les aider à les sortir. Donc, je pense qu'il y a, dans les mois qui viennent, un mouvement que je pense inévitable de consolidation de ce marché de la promotion. Et comme vous vous en doutez, nous nous préparons à en prendre notre part, et si possible d'ailleurs un peu plus que notre part. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui me concerne. Et donc peut-être c'est à Hélène sur la partie immobilier résidentiel.
Bonsoir à tous. Le rebond attendu des permis de construire s'est effectivement produit. Sur le logement collectif, les délivrances de PC ont augmenté de 18% de janvier à mai 2022 par rapport à l'année dernière à la même période. La courbe l'illustre parfaitement, même si nous n'avons pas encore atteint le pic de 2018. Ça nous laisse une marge de progression. La progression de la délivrance des PC des logements neufs ou rénovés chez Nexity, elle, a augmenté un tout petit peu plus que le marché, puisque nous sommes à plus 19%, et ce qui constitue un potentiel d'offre solide. Alors, une offre contrainte par l'accélération de l'inflation, Véronique a insisté sur ce point. L'offre qui aurait pu découler de cette nouvelle dynamique des PC s'est heurtée à la contrainte d'une inflation des coûts travaux. L'indice BT01 a progressé de 7% en un an, d'avril 21 à avril 2022, après de longues années d'une relative stabilité. Et nous avons donc, dans ce contexte, comme le disait Véronique, choisi de négocier au mieux nos marchés de travaux pour préserver nos marges, à travers les optimisations de projets, les contrats cadres, les partenariats avec les petites et moyennes entreprises. Et nous avons choisi de sécuriser le prix de revient, ce qui nous a conduit, avant de lancer commercialement, pour être sûr du prix de revient et pour pouvoir répercuter la hausse des prix sur le prix de vente. L'offre commerciale immédiate a donc été un peu affaiblie, plus faible qu'anticipée en 2022. Elle est en retrait de 12% au S1 de 2021 du fait du report de ses mises en commercialisation. Les reports d'opérations ou production, c'est-à-dire en phase chantier sur le semestre, ont également, pour ces mêmes raisons de questions de négociation de coûts de travaux, nous ont obligés à négocier les prix de vente, notamment les prix de vente des contrats de réservation déjà signés avec les bailleurs sociaux, Les démarrages de chantier ont donc été décalés. Le temps de mise au point de ces marchés s'étant rallongé. Cependant, elles augmentent, et ces démarrages augmentent de 4% chez Nexity contre, Véronique le disait tout à l'heure, un marché qui, de démarrage de chantier qui était stable, mais qui, sur le collectif, était de moins 4%. Donc, nous, plus 4, moins 4 sur le collectif. Une sélectivité accrue de nos opérations nous a conduit par ailleurs à abandonner les projets dont la rentabilité nous paraissait fragilisée par une hausse des prix de vente, jugée excessive ou inadaptée à la nouvelle capacité des acheteurs, suite à l'évolution des taux ou des restrictions de crédit. Et nous sommes allés chercher d'autres projets apportés par des promoteurs de petite ou de moyenne taille, dont l'essentiel sont des opérations avec des permis de construire. Ces éléments nous conduisent à estimer un marché en repli par rapport à l'année 2021. On l'avait situé autour de 150 000 logements. On a estimé que, compte tenu de la baisse des dossiers de crédit qui se situe autour de 14% en un an et les chiffres communiqués par la FPI du premier trimestre qui situent cette baisse à moins 20%, on s'est situé à moins 17 pour être finalement autour de 130 000 logements, ce qui nous met à un niveau tôt ou prou de 2020. Alors, le mixte, je dirais le mixte client a été équilibré, a été maintenu équilibré par Nexity avec des prix de vente qui restent toujours orientés à la hausse. Nos réservations se sont établies à 7639 logements neufs ou rénovés, en retrait de 9% en volume, et je rappelle que le marché au trimestre 1 s'est replié de 20% et de 5% en valeur. Les ventes aux particuliers représentent 63% de ces réservations, une proportion sensiblement équivalente à l'an dernier, puisque l'an dernier on était à 66% sur le premier semestre. Elles sont en baisse de 11% sur la vente au détail, en raison de l'offre plus contrainte, comme indiqué auparavant. Le taux de désistement que nous surveillons tout particulièrement est lui tout à fait stable, le même observé depuis ces dernières années. Les prix de vente ont pu progresser de 3,7% dans les zones A et B1, où sont concentrés l'essentiel de la production de Nexity, plus de 80%. Les ventes en bloc sont-elles en retrait de 3%, notamment en raison, comme je le disais tout à l'heure, du délai des négociations sur les prix de vente avec les bailleurs sociaux. Une nette accélération est attendue sur le semestre prochain. L'offre commerciale est concentrée sur des appartements en projet, pas de stock achevé, quasiment nul, et un encours de travaux limité en ligne avec les autres années, donc pas ou peu de risques sur notre offre et donc pas d'alerte sur notre BFR. 72% des opérations sont encore en projet, non démarrées en travaux, nous permettant de bien maîtriser le rythme de production pour le faire coller à la demande des clients telle qu'elle s'exprime, et le BFR, ce qui nous permet d'avoir un BFR et de prévoir un BFR tout à fait en ligne sur le semestre 1 de cette année par rapport à celui de l'année dernière.
Et Jean-Claude, c'est donc à toi. Merci Hélène.
Alors, concernant l'immobilier d'entreprise, Véronique a donné l'évolution de nos résultats sur ce segment d'activité avec un chiffre d'affaires en régression de 43% et un ROP moins 53%. Et en fait, ce qu'il faudrait dire pour cette activité, pour nous, nous sommes là effectivement où nous nous étions projetés compte tenu de la tendance de ce marché. Donc la vraie question qui se pose sur l'immobilier tertiaire, c'est de savoir où nous mène le marché et comment on peut se positionner. D'abord, ce que nous constatons sur ce marché, c'est que les perspectives pour l'immobilier d'entreprise sont à un point bas. Ils sont à un point bas pour la fin de l'année 2022 et ils resteront à un point bas sans doute au long de l'année 2023. Qu'est-ce qui permet de le dire alors que les indicateurs d'évolution du marché pourraient laisser à penser qu'il y a une certaine reprise? Quels sont ces indicateurs? Sur le marché locatif, on observe qu'il y a une progression de 24% au premier semestre de la demande placée, mais c'est avec un marché qui est très focalisé, avec une prime très forte à la centralité. Et donc, le QCA et les cœurs de métropole sont effectivement en forte reprise. Ce n'est pas vrai pour tout le reste du marché. Donc, c'est très clivé comme reprise d'activité. Et en plus, quand on regarde la granularité, c'est une reprise qui s'exerce sur les petites surfaces. 70% de la demande est une demande en dessous de 5000 m². Autre observation que nous avons, c'est l'investissement au S1. Le volume d'investissement dans le marché au S1 est en progression de 29%. Là aussi, c'est un indicateur en apparence positif, puisqu'on se rapproche de la moyenne décennale. L'écart n'est plus que de 4%. Pour autant, ce qu'on observe aussi dans le même temps, c'est que dans le marché, auprès des propriétaires, les propriétaires tertiaires n'ont pas fait de repricing du risque immobilier, liquidité, obsolescence, vacances, tout cela n'est pas repricé. Et en gros, on est dans un marché, du point de vue des propriétaires tertiaires, qui est un marché attentiste. Ils attendent pour savoir quel va être l'enjeu de repricing. Et ce moment va venir, puisqu'on aura notamment pour les foncières les dires d'experts fin d'année qui permettront d'avoir sans doute un remarquage des primes de risque. Et donc, ce remarquage devrait se poursuivre en 2023 et avec un début d'arbitrage de portefeuille qu'on devrait voir dans les années suivantes qui pourrait être favorable pour la reprise de nos activités sur la promotion tertiaire. Et en vérité, derrière ce problématique de remarquage, il y a une observation qui est celle d'un lent déplacement de la valeur du produit vers les services, ce qui nous amène tout naturellement à nous poser la question de notre position à nous sur le périmètre des services. Sur les services, les grands chiffres, vous les avez à l'écran et dans la communication financière. On est sur un total de 421 millions, plus 9% en progression par rapport à l'année dernière. Il faut aussi avoir en tête quelques chiffres complémentaires. Ces 421 millions, c'est 22% du chiffre d'affaires groupe pour un périmètre d'activité service qui ne consomme que 5% du BFR. Et quand on regarde le résultat opérationnel courant de cette activité, 36 millions, c'est un tiers du ROP Group au S1. Et donc, c'est une activité sur laquelle le groupe est extrêmement dynamique. Quels sont les drivers sur les différents périmètres des services? D'abord, la gestion. La gestion, vous savez que c'est la gestion d'abord de services aux particuliers, donc l'ADB. Location, transaction, syndic, gestion locative. On a un premier semestre extrêmement solide, avec un taux d'avancement de 49% sur notre chiffre d'affaires, qui progresse par ailleurs de 2%. C'est une activité qui continue à bénéficier de la traction de la transaction, qui est en progression sur notre périmètre de 12%. Et on continue, comme on vous l'avait indiqué au premier trimestre, à améliorer le taux d'équipement et donc la monétisation de nos clients, notamment en produits d'assurance, auxquels nous continuons à faire progresser le taux d'équipement. Sur les activités de property management, tertiaire et commerce, puisque nous avons deux offres sur ce marché, NPM et Accessit, on est à peu près en ligne avec la trajectoire. Un petit retard sur la promotion property management tertiaire, mais qui est compensé par la progression sur property management sur le commerce. En ce qui concerne la distribution, deuxième pôle sur ce périmètre, la distribution que vous voyez à l'écran représente 30% de l'ensemble des services. On a un chiffre d'affaires qui progresse de 2%. Là, ce qui est important de noter, c'est que nous avons un niveau de performance qu'on peut considérer comme élevé dans un marché qui est certes encore assez plus haut historique, puisque c'est le marché de l'investissement des investisseurs privés particuliers. Et donc sur ce marché-là, qui est encore assez plus haut, on commence à voir un début de retournement. Et c'est quoi ce début de retournement? On a vu au premier trimestre que ce marché avait baissé à peu près de 15%, et on attend une baisse pour le S1 autour aussi de 15-20%. Dans ce marché-là, la performance de Nexity, nous, le niveau de réservation sur ce périmètre est seulement de moins 10%. Donc on peut considérer qu'on fait une performance relative bien meilleure que le marché, et pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, on reçoit des promoteurs tiers, le stock, la liquidation de leur stock, donc ils viennent nous voir pour commercialiser la liquidation liquidation de leur stock, et donc ça nous permet d'avoir une performance meilleure. En ce qui concerne l'exploitation, sur l'exploitation, nous avons deux activités principales, l'activité de résidence étudiante avec Studéa, je vous rappelle, 129 résidences, 16 200 lots, c'est une activité où le chiffre d'affaires progresse très sensiblement, plus 13%, et où l'Europe progresse de 15%. Cette performance est obtenue grâce à l'amélioration du taux d'occupation, qui progresse de 4% d'une année sur l'autre, d'un semestre à l'autre, avec un TO de 96%. Et il est à noter qu'au premier semestre de cette année, on surperforme le premier semestre 2019, année normale de référence, où on fait mieux en taux d'occupation que le premier semestre 2019. La croissance d'Europe est tirée évidemment par l'amélioration du taux d'occupation, mais aussi tirée par l'accroissement du parc. On a ouvert 6 résidences supplémentaires, ce qui représente l'équivalent de 1000 lots. En ce qui concerne Morning, bureau à l'usage, coworking, c'est une activité qui a fortement accéléré chez nous et qui profite de l'appétit du marché pour la flexibilité des baux et flexibilité de l'offre de bureaux pour le bureau à l'usage. L'offre de Morning, c'est 34 espaces exploités, 75 000 m² et près de 9 000 postes de travail. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 2,5 et un ROP positif. La forte accélération de Morning est alimentée par deux choses, son cœur d'activité coworking, bien sûr, qui explique la 50% de la croissance du chiffre d'affaires. Et l'autre élément qui alimente la croissance de Morning, c'est les produits dérivés de cette offre, la diversification et notamment l'offre d'aménagement pour ses clients. Et donc, ces deux activités expliquent la croissance de Morning. Un élément peut-être pour illustrer l'efficacité du modèle de Morning, c'est tout simplement que Morning a divisé par deux son ramp-up. On était à 12 mois en moyenne pour obtenir un taux d'occupation supérieur à 90% d'un espace ouvert. Désormais, nous sommes à 6 mois. Et pour être encore plus signifiant sur cet indicateur, au cours du T2, les trois derniers espaces qu'on a ouverts, au T2, trois derniers espaces qu'on a ouverts, sont au moment où je parle déjà pleins à 80%.
Donc maintenant, les résultats financiers avec Nadia.
Merci Jean-Claude, bonjour à tous, Nadia Ben Salem, Nicolas. Je vais couvrir les résultats financiers. Alors, peut-être en introduction d'abord, je vous rappelle que Nexity avait finalisé sa revue stratégique au premier semestre 2021 avec les cessions des groupes Century 21 et Egide 2010. Que les résultats du premier semestre 2021 intégraient les contributions et les plus-values de ces cessions et qu'ils ne sont donc pas directement comparables aux résultats du premier semestre 2022. Ces effets, on les a isolés afin de permettre une comparaison des résultats entre les deux périodes à périmètre comparable et ce sont ces chiffres que je vais commenter dans les slides suivantes. On va commencer par le compte de résultats et la première ligne du compte de résultats qui est le chiffre d'affaires qui s'établit au 30 juin à 1,964 milliard d'euros. C'est en baisse de 100 millions d'euros par rapport au chiffre de l'année dernière. Véronique l'a dit, ce chiffre intégrait la contribution ponctuelle de la prise de commande de Reiwa en immobilier tertiaire pour un montant de 124 millions d'euros. Sans cet effet, le chiffre d'affaires enregistre une progression de 1% qui reflète deux dynamiques à l'œuvre. D'un côté, un léger repli côté immobilier résidentiel, moins 2%, qui s'explique par un volume de chiffre d'affaires mis en production en baisse, en raison du décalage du lancement de nos mises en commercialisation et du démarrage des travaux, ce qui a pour conséquence de retarder la reconnaissance du résultat, de retarder la transformation de notre backlog en chiffre d'affaires. Je parle bien de retard, il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires.
Et de l'autre côté, une très forte progression des services à plus 9%, sur laquelle je ne reviendrai pas. Jean-Claude l'a très bien détaillé, des services qui représentent 20% de notre chiffre d'affaires, 30% de notre résultat et qui poursuivent la très bonne dynamique de croissance rentable et résiliente qu'on enregistre depuis maintenant 12 à 18 mois. Donc au total, un chiffre d'affaires à un niveau toujours élevé, en croissance sur effet tertiaire, mais à un niveau plus faible que nos anticipations pré-Ukraine, je dirais, du fait d'une mise en production prudemment ralentie. Et c'est ce qui nous conduit à préciser le chiffre d'affaires pour l'année, qui devrait être d'un niveau comparable, en tout cas au moins égal, à celui de 2021 à périmètre constant. Alors on va passer maintenant au résultat opérationnel, qui s'établit à 110 millions d'euros, c'est la slide suivante, au 30 juin. Retraité de l'effet de base REWA pour 16 millions d'euros, il est en léger repli de 7 millions d'euros à périmètre comparable, et avec de nouveau deux grandes dynamiques à l'œuvre, avec d'un côté une baisse dans les activités de promotion, au total moins 23 millions, partiellement compensée par une progression dans les services et les autres activités qui correspondent principalement aux charges de holding. Pour l'immobilier résidentiel, je dirais que la baisse de résultats n'est que la conséquence directe du décalage du démarrage des opérations, qui a conduit à une moindre reconnaissance du chiffre d'affaires et donc une moindre couverture de nos frais fixes, mais les taux de marge sur les opérations en cours restent en ligne avec les marges normatives que nous avions prévues en comité d'engagement, donc pas d'impact de l'inflation à ce niveau-là. En immobilier d'entreprise, le résultat est en repli comme attendu. Le taux de marge reste à des niveaux très élevés, à 13%, et est toujours au-dessus des niveaux normatifs et au niveau attendu pour l'année. Et côté service, Jean-Claude l'a dit, les résultats opérationnels sont en hausse à 36 millions d'euros, avec un taux de marge en croissance de 180 points de base pour atteindre 8,5%, une progression qui est tirée par un triple effet de croissance dans les métiers d'exploitation, des taux d'occupation en hausse, une progression du parc géré, des délais de ramp-up raccourcis, et le solde des autres activités reste négatif, mais à un niveau moindre ce semestre du fait d'un avancement des dépenses qui est ponctuellement plus faible au 30 juin. Au final, la marge opérationnelle, elle s'établit à 5,6% au 30 juin. Vous le savez, elle est non représentative de la performance annuelle, puisque dans nos métiers, le taux de marge au premier semestre est toujours plus faible. Et compte tenu des différentes dynamiques de nos métiers, eh bien, nous sommes confiants pour délivrer en 2022 un résultat opérationnel avec un maintien de notre marge autour de 8%. Passons ensuite au résultat net. Alors, je l'ai dit, le résultat opérationnel, c'est la première ligne de ce tableau, ressort à 110 millions d'euros, il est en baisse de 23 millions d'euros. Le résultat net par du groupe, c'est la dernière ligne de ce tableau, ressort à 54 millions d'euros, en baisse de 21 millions d'euros. Et l'essentiel des postes entre ces deux lignes sont stables. À noter tout de même que le résultat financier est en amélioration de 5 millions d'euros par rapport à l'année dernière, grâce au double effet de la baisse de l'endettement suite aux cessions que nous avons réalisées l'année dernière et de la baisse du coût de l'endettement financier qui passe à 1,8% contre 2,1% l'année dernière, compte tenu de la politique de refinancement active que nous avons menée l'année dernière. Et la charge d'impôt est stable avec un taux effectif d'impôt courant qui ressort à 27% à fin juin, en ligne avec le taux fiscal normatif. Alors je passe ensuite rapidement au bilan qui montre au 30 juin une structure très solide, très saine, avec un endettement financier qui est la partie en bas à droite qui représente moins de 50% de nos capitaux propres qui s'élève à environ 1,9 milliard d'euros. Peu de changements par rapport à la configuration du bilan au 31 décembre, hormis le BFR et l'endettement que je vais commenter dans les slides suivantes. On va commencer par le BFR qui s'élève donc à fin juin à 1,3 milliard d'euros. Il est principalement concentré, vous le voyez sur le tableau à gauche, en promotion d'immobilier résidentiel. Il est en hausse de 200 millions d'euros par rapport au 31 décembre, essentiellement concentré sur le logement. Cette hausse, Hélène l'a dit, est comparable à celle enregistrée habituellement au premier semestre, qui est toujours marquée par des flux de dépenses sur les chantiers qui sont supérieurs aux encaissements des clients de la période.
Et vous le voyez sur le graphique de droite, le ratio BFR sur backlog, qui est vraiment l'indicateur qu'on suit pour évaluer sa bonne maîtrise, il reste stable par rapport aux années précédentes à 18%. Alors, je pense qu'il est important de préciser qu'au-delà des sujets ponctuels d'encaissement et d'encaissement, on a structurellement une bonne maîtrise chez Nexity de notre BFR, compte tenu des fondamentaux de notre activité. On a une offre commerciale qui est plus risquée, je le redis, elle inclut aucun stock de logements achevés. Elle porte principalement sur des opérations non lancées en travaux et donc elles sont peu consommatrices en BFR. Nous avons des délais d'écoulement qui sont très rapides, à 4,5 mois, et on gère de façon très rigoureuse et très disciplinée notre niveau de réserve foncière, qu'on appelle notre land bank, qui ne devrait pas significativement augmenter d'ici la fin de l'année, puisque, vous le voyez, elle atteint à fin juin 250 millions d'euros, et que nous nous sommes fixés une enveloppe maximum à 300 millions d'euros. Tout cela pour dire que nous sommes confiants sur une progression très contenu du BFR au second semestre. Je passe à l'endettement net. L'endettement net du groupe avant obligations locatives, il s'élève à 878 millions d'euros à fin juin. Il est en hausse de 280 millions d'euros par rapport au point bas qu'on avait enregistré à la fin de l'année dernière, à 598 millions d'euros. Cette hausse, elle s'explique principalement par deux éléments. Je ne vais pas parcourir chacune des lignes du bridge. Il y a vraiment deux éléments importants. La première, bien, c'est la hausse du BFR pour environ 200 millions d'euros que je viens d'évoquer. Et la deuxième, c'est le fait qu'il y a un impact à 100% du paiement du dividende pour 138 millions d'euros pour moins de 50% de l'EBITDA annuel généré sur la période. Donc en fait, c'est une situation financière solide. Le ratio de levier il s'élève à 2,3 fois l'EBITDA au 30 juin. C'est en ligne avec nos anticipations et ce que nous avions discuté au moment des résultats annuels. C'est bien inférieur au seuil de nos covenants bancaires par ailleurs, qui s'élève, vous le savez, à 3,5 fois l'EBITDA. Alors ce niveau de dette représente un point haut de l'endettement annuel et la dette de fin d'année restera maîtrisée autour de l'ordre de grandeur du 30 juin, compte tenu de nos anticipations pour le second semestre. L'acquisition d'Angelotti, qui est prévue d'ici la fin de l'année, devrait impacter notre endettement net pour moins de 100 millions d'euros. Un dernier mot sur notre structure financière qui est, donc je l'ai dit, très solide. La variation de l'endettement net elle a été principalement financée par une réduction de la trésorerie qui est passée, vous le voyez dans le tableau de gauche, de 1,1 milliard au 31 décembre à 914 millions d'euros au 30 juin, qui reste à un niveau très élevé, hein, plus de 900 millions d'euros de trésorerie, et à laquelle s'ajoutent 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non tirées. Je précise que l'endettement brut est constitué principalement de dettes à taux fixe, pour 56% de notre niveau de dette brute, ce qui réduit vraiment l'exposition du groupe et ses charges de frais financiers aux hausses de taux d'intérêt à venir. Et comme vous le voyez sur le graphique de droite, eh bien, pas d'échéance de remboursement très significatif à prévoir au cours des deux prochains exercices. Alors, le tableau des flux de trésorerie en slide 31 pour conclure cette partie financière. La capacité d'autofinancement après loyer, elle s'élève à 125 millions d'euros à fin juin. Elle est globalement comparable à la contribution du premier semestre de l'année dernière. Compte tenu principalement de l'augmentation du BFR, eh bien, le cash flow libre est ponctuellement négatif à moins 136 millions d'euros. C'est en fait un niveau comparable à celui de l'an dernier si on corrige le niveau de l'an dernier des atypismes enregistrés liés aux avances clients sur les grandes commandes tertiaires hein, de Reiwa mais également de la Garenne Colombes. Et compte tenu de l'effet année pleine de l'EBITDA et compte tenu d'une moindre consommation de BFR au second semestre, nous sommes confiants pour trouver une génération de cash flow de nouveau positive d'ici la fin de l'année. Voilà pour les éléments financiers, les principaux de ce semestre. Et je repasse la parole à Véronique pour la conclusion.
Et donc, deux mots de conclusion. Vous l'avez compris, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à bras-le-corps, au fond, les événements du T2. J'ai envie de dire avec lucidité, avec fermeté. Nous avons mis en place les bonnes actions de gestion prudente. D'abord pour maîtriser nos risques, hein, vous l'avez compris, on n'a pas fait de lancement commercial sans savoir combien au fond, à quel niveau étaient nos coûts de construction. Vous avez vu aussi que nous n'avions pas au fond en stock de logements construits que nous n'aurions pas vendus. Donc nous avons vraiment maîtrisé nos risques, nous avons travaillé à préserver nos marges, mais aussi notre capacité de rebond, puisque nous disposons au fond des moyens significatifs pour accélérer les jours venus. Et vous l'avez compris, nous avons évidemment bien l'intention de profiter aussi des opportunités que le moment va nous offrir. Voilà, et donc en conclusion, l'Investor Day aura lieu comme vous avez reçu l'invitation, je pense déjà, hein, le 28 septembre au pavillon Gabriel, avec une déambulation à Saint-Ouen pour qu'on puisse vous montrer un peu au fond ce que nous faisons quand nous construisons la ville. Et donc voilà pour notre présentation.
Et nous sommes à votre disposition pour les questions que vous auriez suite à cette présentation de nos résultats semestriels.
Très bien. Donc si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire sur la conférence d'aujourd'hui, appuyez sur étoile 1, le clavier de votre appareil. Première question nous vient de la part d'Emmanuel Parot, de Gilbert Dupont. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonsoir, si vous m'entendez bien.
Bonsoir.
Quelques petites questions. Alors, la première peut-être sur votre indication d'une stabilité de la dette nette en fin d'année par rapport au 30 juin. J'ai pas très bien compris si c'était... C'est inclué le cash-out d'une centaine de millions d'euros concernant Angelotti. Donc, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était sur les réservations au S1. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la marge brute ou de la marge opérationnelle portée par ces réservations pour bien vérifier que c'est en ligne et ce que vous faisiez par le passé? Ma troisième question, c'était là aussi une précision. Est-ce que concrètement, sur le premier semestre, il y a des opérations qui étaient lancées commercialement, qui ont été abandonnées? Et si c'est le cas, quel type de coûts associés quand vous abandonnez des opérations qui sont déjà lancées commercialement? Voilà. Et dernière petite question, si je peux me permettre, c'est sur votre backlog d'immobilier tertiaire, le 900 millions d'euros. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment ça se translate en chiffre d'affaires sur les 3-4 prochaines années? Merci.
Alors peut-être réponse sur la dette nette.
Oui, je peux prendre cette question, Emmanuel. Ce que j'indiquais, c'était d'abord en effet qu'on avait donc fini le 30 juin à 878 millions d'euros, que compte tenu de l'effet année pleine de l'EBITDA et puis qu'on consommerait moins de BFR au second semestre, on devrait avoir une dette de fin d'année qui ne serait pas supérieure à celle du 30 juin. Donc j'étais plutôt sur une considération à périmètre constant et donc un ratio de levier qui devrait rester raisonnablement autour de 2 fois. Et puis on aura un impact de l'acquisition d'Angelotti qui devrait être faiblement contributive en termes de résultats compte tenu du timing du closing, donc sur le compte de résultats, mais qui en dette nette devrait en avoir un impact de l'ordre de un petit peu moins de 100 millions d'euros.
Et le closing est prévu pour quand, pour Angelotti, a priori?
Je ne vais pas m'engager sur une date,
automne,
quelques tours.
On attend l'avis de la commission de la concurrence, qui est tout à fait normal, donc voilà, c'est automne.
Okay.
Opération lancée commercialement, je vais peut-être te laisser répondre, Hélène. Est-ce qu'on a abandonné des opérations qu'on avait déjà lancées? La réponse est non à cette question, mais Hélène le dira mieux que moi.
Oui, pas d'opération abandonnée avec permis de construire, des opérations abandonnées en phase amont de la même façon que les autres années, avec pas beaucoup d'abandon complémentaire et surtout dans une phase très préliminaire, c'est-à-dire sont plutôt des frais d'études qui sont abandonnés, qui sont relativement modestes. La deuxième question que vous posiez était à quelle marge nous lançons les opérations. Je pense que Véronique et moi-même, on a abondamment commenté ce point. Clairement, nous avons décidé de lancer en commercialisation les opérations lorsqu'on maîtrisait parfaitement, autant que faire se peut, le prix de revient. C'est ce qui a d'ailleurs conduit à un ralentissement de l'offre dont nous disposions. Et c'est pour préserver cette marge, pour bien connaître le prix de revient, pour nous permettre de répercuter les hausses de coûts travaux sur le client final, que ce soit les bailleurs sociaux ou que ce soit les clients particuliers.
Et sur le backlog, peut-être, Eric ?
Le backlog tertiaire, c'est à peu près 3 ans d'activité. C'est ce qui correspondra au rythme d'écoulement de construction des opérations qui sont en cours. Il est majoritairement composé, bien entendu, du backlog sur l'encours de construction du chantier de la Garenne-Colombes, l'éco campus Engie, qui se déroule conformément à nos prévisions. Et court terme, en termes de chiffre d'affaires sur 2022, on anticipe plutôt un point bas de chiffre d'affaires sur l'immobilier entreprise autour de 400 millions d'euros. Le reste du backlog se découlera sur les années suivantes, avec sans doute une contribution plus importante en 2023 compte tenu de l'avancement favorable et plus significatif de la Garenne-Colombes dans nos chiffres.
Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Non, c'est parfait. Merci pour ces précisions.
Merci beaucoup.
Merci, Manuel.
Voilà, bah écoutez, de notre côté, il n'y a plus de questions dans le fil d'attente. Donc, dernier appel, si vous souhaitez poser une question sur étoile 1, il sera pareil. Voilà, nous avons maintenant une question de la part de Pierre Coloro, nous appelons de Kepler Chevreux. Allez-y, c'est à vous.
Oui, bonjour, Pierre-Aniel de Kepler. J'ai juste une question sur votre guidance, en fait. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. On est bien d'accord que la guidance, donc un chiffre d'affaires équivalent, donc c'est hors des activités CD, donc on est à peu près aux 4 milliards 6 de l'année dernière. Si on part du principe qu'on a un taux de marge opérationnelle de 8%, on serait du coup à 370. Donc il y a bien un abaissement de guidance sur la marge opérationnelle. Hein.
Il y a un abaissement de guidance sur le chiffre d'affaires qui a un effet sur la marge, mais on dit aussi autour de 8.
D'accord, mais c'est juste pour être clair, il y a bien un ajustement de profitabilité sur 2022, quoi.
Non, là pour le coup non.
En masse,
mais de profitabilité où on ne donne pas la même signification au mot. On vous a expliqué, je crois, extrêmement longuement qu'on avait pris le temps qui allait bien pour maîtriser nos risques et au fond, préserver notre profitabilité et nos marges. C'est ce qu'on a fait au T2. Donc ça, comme conséquence qu'il y a une partie du chiffre d'affaires qui va sans doute se décaler en 2023. Donc nous, on dit, grosso modo, on a un chiffre d'affaires qui va être stable par rapport à l'année dernière, mais le taux de marge sur ce chiffre d'affaires reste le même.
Ok. D'accord.
Donc, nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Je vais donc redonner la parole pour conclure la conférence d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, surtout, retrouvons-nous au pavillon Gabriel fin septembre, si vous le voulez bien. Et bonnes vacances à tous.
Bon été. Merci.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher. Quant aux conférences, s'il vous plaît, restez connectés pour des supplémentaires. Merci.